La réconciliation, voici un enseignement du Père Pierre-Marie Castaños, enregistré lors du festival marial du mois de juillet 2022 à Notre-Dame du Lot. La réconciliation, le Père Pierre-Marie Castaños.
Peut-être revenir sur un point d'hier, avant de peut-être passer à la question de la réconciliation, etc., de bien discerner la différence entre la blessure et le péché. Vous vous rappelez un peu des cinq types de blessures, ça vous dit quelque chose, les cinq types de blessures? Il y avait le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice, l'humiliation. C'est des choses que j'ai reçues. Et ensuite, comment est-ce que je me suis construit avec ce que j'ai reçu ou pas reçu? Parce que là, en l'occurrence, c'est des choses qui ensuite me manquent. Comment est-ce que je me suis construit avec ce que j'ai reçu ou pas reçu? Donc, c'est intéressant de travailler là-dessus et de faire la différence entre péché et blessure. La blessure, elle est involontaire. La blessure, voilà. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? En quoi le péché, si peut-être un certain nombre d'entre vous vous êtes confessés, pour se confesser, il faut confesser des actes libres. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Imaginons que je sois addict à l'alcool. J'ai mis ça en place comme stratégie pour compenser une blessure, pour me sentir mieux. Donc, quand je sors de mon domicile, il y a deux chemins. Il y a un chemin qui passe devant le bistrot, il y a un chemin qui ne passe pas devant le bistrot. Il y a deux chemins. Voilà. Il y a un qui passe devant le bistrot. Alors, quand je claque ma porte de mon appartement, je suis libre. Mais déjà, qu'est-ce que je vais faire? Sachant que pour aller à mon travail, il y a les deux chemins possibles. Qu'est-ce que je vais faire? De se dire que... si je me confesse de ça et que je vais dans le chemin du bistrot, je demande pardon, j'avais un autre choix. Je ne l'ai pas pris. Quelque part, avoir bu, peut-être m'être saoulé, je suis tellement, déterminé par ma fragilité, par les habitudes, ce qu'on appelle les habitudes mauvaises, ce qu'on appelle les vices, que quelque part, c'est même pas là que... C'est même pas de ça dont je dois demander pardon, parce que je suis pas libre. L'alcoolique face à la bouteille, il n'est pas libre. Alors qu'il était libre quand il était sorti de son appartement. Oui, donc, juste pour vous dire que les blessures, en fait, on les reçoit. Et qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie? Comment on construit sa personnalité en posant un certain nombre d'actes? Et donc, je trouve que c'est quelque chose qui... Et du coup, moi, je vais peut-être commencer par là, et puis on verra ça, où ça nous mènera, mais la question du combat spirituel. On est tenté. Je sais très bien, il ne faut pas que j'aille dans ce chemin du bistrot. Je le sais très bien. Et c'est intéressant, c'est important, la tentation, elle est dans l'imagination. Le démon, quand il nous tente, si vous voulez, il nous tente dans l'imagination. Ah, si je piquais ce billet de 50 euros que je vois sortir de la dame avec qui je prends le métro tous les jours et j'ai qu'à ça à faire comme ça. Parce que derrière ça, je cherche un bonheur. Toujours je cherche un bonheur. Hein, c'est le philosophe Pascal qui dit « L'homme qui va se pendre cherche un bonheur ». On cherche tous un bonheur. Et donc, mais on le cherche parfois... De façon erronée, c'est un faux bien. C'est un faux bien, et donc du coup, ce qui veut dire que ce faux bien, ça va au contraire plus m'enfoncer. Donc voilà, je pense que c'est important de découvrir qu'il y a, à travers les tentations, à travers le combat spirituel, de se dire où est-ce que j'ai prise. Parce que le démon, il connaît nos blessures et souvent, il va taper dans nos blessures. Imaginons, j'ai des blessures d'abandon. J'ai été abandonné ou je me suis senti abandonné ou carrément abandonné par ma famille. J'ai été adopté, par exemple. On voit beaucoup de personnes qui ont été adoptées qui sont dans une certaine souffrance parce que je n'ai pas été choisi par ceux qui, normalement, auraient dû m'aimer, mes parents. Et donc, du coup, on voit des personnes qui développent, des jeunes et moins jeunes, je connais un certain nombre de cas, assez nombreux, somme toute, des conduites à risque. Qui développe des conduites à risque, ça veut dire quoi, conduite à risque? Ça veut dire je vais me mettre dans une attitude de violence, je vais me mettre dans les trafics, je vais tout faire pour attirer l'attention sur moi. Je vais tout faire pour attirer l'attention sur moi parce que j'ai une blessure d'abandon. Et donc du coup, pour dire j'existe, je fais tout pour attirer l'attention, même quitte à recevoir des coups. Et je vais toujours aller avec les mauvaises personnes. Parce qu'en fait, c'est là aussi celles qui m'acceptent. Donc je pense que c'est important d'être attentif à ça, de prendre conscience qu'on a besoin, à travers les blessures, de dire... Et c'est ça quand je dis le travail sur soi-même. Qu'est-ce qu'on a mis en place qui est peut-être déviant, qui fait que... On a voulu combler une blessure, mais par quelque chose qui est déviant. Et donc, on dit travail intérieur. Hier, je vous ai parlé. N'hésitez pas à vous asseoir. Travail intérieur, ça veut dire que c'est prendre conscience de nos manières de fonctionner. Prendre conscience de nos manières de fonctionner. Ah oui, je suis comme ça. Ah oui, d'accord, je me mets en danger, j'attire l'attention, je suis infernal, parce qu'en fait j'ai été abandonné et que je veux toujours qu'on me regarde, quitte à me taper dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On voit comme ça des enfants comme ça qui sont... parce qu'ils ont tellement soif d'amour. On a tous soif d'amour, tous soif d'être aimés. Simplement, nous sommes, parce que nos parents ont aussi hérité du péché originel et de ses conséquences, notre nature humaine est blessée. Mais face à des cinq grandes blessures que je vous ai dites, prenez conscience qu'est-ce que j'ai mis en place pour survivre. Quelque part, c'est pour survivre. Par exemple, j'ai vécu des injustices. Et qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais mettre, vous rappelez, hein, ce qu'on avait vu, les trois aspects, sauveur, vous rappelez, sauveur, victime et bourreau. Sauveur, victime, bourreau. C'est bien, vous êtes super, super élèves. Sauveur, victime, bourreau, c'est-à-dire que j'ai mis en place, comme j'ai vécu une injustice, je me suis mis toujours comme sauveur. Et du coup, je vais toujours vouloir subvenir aux besoins des autres qui n'ont rien demandé. Ce qui va faire que je vais être rejeté, parce que nous, en communauté, par exemple, il y a un frère, pour vous faire un aveu, ça restera entre nous, ça ne sortira pas du département, comme on dit, mais qui toujours veut vous rendre des services. Le problème, c'est qu'il ne marche pas bien, il ne voit pas, il n'entend pas bien. Donc du coup, c'est compliqué, on lui dit, en fait, non, c'est bon. À table, vous vous mettez toujours l'eau, le pain, le sel. Non, c'est bon, le frère, c'est top, je peux parler, c'est top, mais... Il est dans une attitude de sauveur. Il veut toujours se mettre... Bon, maintenant, il n'a pas pris conscience de ça. Mais justement, c'est un grand pas quand on prend conscience de son mode de fonctionner. Quand je prends conscience... Et ça, souvent, c'est en miroir avec quelqu'un. Quelqu'un. Et l'avantage, nous, quand on est en vie communautaire, par exemple, et la vie de couple, c'est pareil, quelqu'un fait écho à votre manière de fonctionner. Est-ce que tu t'es rendu compte que ceci, que cela? Mais dans la bienveillance... De demander dans la bienveillance, de demander des grâces particulières pour justement être attentif et ne pas reproduire, d'autant plus si vous êtes parent. Qu'est-ce que vous faites si vous êtes parent? Parce que si vous reproduisez la violence que vous avez reçue ou le rejet que vous avez reçu ou etc., etc. Donc je trouve ça important pour un peu continuer, le travail sur soi-même, c'est faire advenir à la conscience même les stratégies que j'ai mis en place pour survivre. Parfois, il fallait juste survivre. Oui. Oui. Le travail sur moi-même, c'est amener à faire advenir à la conscience, c'est faire advenir à la conscience les stratégies que j'ai mises en place pour survivre. Alors voilà, alors voilà, bon. Bon, très bien. Non, stop, stop. Non, mais excellente question, parce que... Et de même, si vous êtes habitué de la confession, en général, quand on confesse, on dit, grosso modo, la même chose. De toute façon, vous me direz, le prêtre ne vous demande pas de faire dans l'originalité à mon père. Là, vous n'allez pas vous ennuyer, j'ai tué père et mère, et maintenant j'ai dîné de la coke, là j'ai voulu changer de la dernière fois. Non, parce que, je veux dire, le prêtre ne vous demande pas. Moi, j'aime bien cette expression qu'on attribue à saint Benoît, se confesser, c'est fracasser la tentation contre le Christ. Je confie à Jésus mon combat. Que je retrouverai certainement à la sortie du confessionnal ou de la rencontre avec... Certainement. Parce que... Mais dire que... Alors, juste, c'est inscrit dans nos gènes, il faut faire attention. Nous ne croyons pas... J'entends, comme vous le dites, mais en tout cas, ce n'est pas génétique, les blessures. C'est acquis. Mais par exemple, imaginons que je sois colérique, que face à l'injustice, parce que j'ai été injustement traité, et du coup, on a vu hier que la colère vient d'une injustice. Mais et c'est le travail de toute une vie. C'est là que c'est important. Moi, en tout cas, c'est ma formation. Moi, pour vous dire, je suis thérapeute de couple certifié, et je me suis formé à la communication non violente, à l'énéagramme. Pour certains, ça dira quelque chose. Mais je crois qu'il faut aujourd'hui à la fois des outils psychologiques et à la fois des outils spirituels. C'est-à-dire qu'on prend conscience que on peut aller voir un psy, un thérapeute, quoi qu'est-ce. Il n'y a pas de bouton sur lequel appuyer pour changer. Et du coup, je crois que une fois que vous avez découvert votre faille, une fois que vous êtes dit, je suis toujours en position de sauveur, je suis toujours en position de victime. Et je sens que ça, à force, par exemple, de ne pas, j'ai peur du conflit, et à force de ne pas vouloir conflit, je ne choisis rien. Mais ne rien choisir fait que créer des conflits. Qu'est-ce que tu veux, un pain au chocolat, un pain au raisin? Ah ben, j'en sais rien. Ah ben, non. Alors du coup, le combat, mettre en place des choses, je vais d'abord commencer par des petits choix, des petits pas, qui vont faire que je vais pas changer tout. Moi, je me méfie un peu ces coups de barre d'un seul coup. Mais c'est qu'est-ce que je vais mettre en place, c'est l'accompagnement qui va faire que je vais des petits pas, des peu accessibles. Et du coup, par exemple, je reviens à la confession. C'est très difficile de donner une pénitence. Vous savez, la pénitence, elle a deux objectifs. Elle a comme objectif réparer le mal que j'ai fait. Et elle a comme objectif guérir ma blessure. Guérir le mal que j'ai pu faire, mais me guérir moi-même. Et du coup, je trouve que c'est important dans la pénitence que moi j'essaye, mais parce qu'on donne 2-3 pater, 2 ave, un rosaire, c'est très bien. Mais je suis plutôt pour. Mais je me dis, est-ce qu'au fond, dans la pénitence, on n'a pas aussi à dire des choses concrètes qui vont faire que je vais corriger un peu le tir, un peu. Hein, parce que j'ai parfois peur que la confession soit en mode station de lavage, vous voyez, les stations de lavage, que le confessionnal soit une station de lavage, voilà, on en ressort, mais c'est important d'y aller, même si je sais, on se lave les mains plusieurs fois par jour, on prend sa douche tous les jours, voilà, il y a une hygiène du corps, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une hygiène de l'âme? Pourquoi? La régularité, oui. La régularité, bon, ça fait un peu... L'Église demande au moins une fois par an. Voilà, au moins une fois par an. Maintenant, c'est un peu à voir avec vous. Vous dites, tiens, je suis particulièrement attaqué, je sens que le démon m'attaque dans ma fragilité, dans mon combat. Je sens que je deviens de plus en plus infernal à vivre. Je sens que, et les gens me le disent, qu'est-ce que tu es colérique, qu'est-ce que tu es difficile en ce moment, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, du coup, j'ai besoin du secours de la grâce de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est important c'est vrai que c'est pas tout, mais si vous n'avez pas pris conscience, c'est impossible de changer. Si vous n'avez pas pris conscience, prendre conscience ne fait pas tout, je suis d'accord. Mais si vous n'avez pas pris conscience de vos blessures et les manières d'agir que vous avez mises en place pour survivre, pour être aimé, parce que tout ce qu'on veut, c'est être aimé, mais parfois maladroitement, on va dans le mauvais pas, on prend. On demande à des mauvaises personnes de nous aimer ou des mauvaises pratiques de nous transmettre un bien-être. Vous voyez, je pense que c'est important de... Et donc voilà, de prendre conscience. Parce que si je n'ai pas conscience, et c'est là où il y a l'humilité. Hein, l'humilité, vous vous rappelez, dans le semeur est sorti pour semer. Hein, voilà là. L'humilité, ça veut dire la terre, humus, terre. Et donc l'humilité, c'est cette terre dans laquelle va fleurir nos talents. Et que c'est pas parce que je suis blessé que je n'ai pas de talent. Et est-ce qu'au fond, la meilleure manière de lutter contre nos penchants mauvais n'est pas de développer ses talents? Est-ce que c'est pas la meilleure manière? C'est charisme, c'est... ses charismes, ses talents. Il n'y a pas de vie sans vocation, il n'y a pas de vie inutile, il n'y a pas de vocation sans mission. Vous voyez, donc, je crois que c'est important que nous prenions tous conscience que, oui, nous sommes des êtres blessés à différents degrés, en fonction de notre histoire de vie, notre histoire sainte. Et notre histoire sainte, voilà, il y a des histoires saintes très compliquées. Quand je dis histoire sainte, c'est nos histoires de vie, hein, qui sont très complexes, avec beaucoup de blessures, avec beaucoup d'injustices, avec beaucoup de voir de violence. Il y a des histoires plus simples de vie. Hein. Voilà, donc la violence, elle n'est pas que physique, elle peut être aussi psychologique. Donc prenez conscience qu'au fond, je suis appelé à... même si je suis blessé, je peux vraiment porter du fruit. Je peux faire du bien. Je peux faire, et est-ce qu'au fond, ce ne sera pas le fait de faire du bien autour de moi qui va être le remède aux pratiques déviantes que j'ai mises en place pensant être aimé? Oui, Mélissa. Oui, parce qu'en fait, est-ce que je veux aider les autres, mais parfois trop. C'est-à-dire, et je veux aider les autres, et je prends, j'ai déjà moi-même, parce que j'ai souffert de l'abandon, apporté quelque chose, est-ce que je suis la meilleure personne, la mieux adaptée, la mieux formée pour porter les autres, sachant que moi, déjà, il faut que je me porte. Et donc, je dis OK pour porter les autres, OK pour porter les autres, mais d'abord, guérir. D'abord, soi-même, parce qu'évidemment, quand on a été abandonné, il y a une empathie. On voit l'autre à souffrir, qu'on a souffert l'injustice, on voit l'injustice à côté de nous et on veut courir. C'est logique. Mais parfois, c'est pire que mieux, dans le sens où on n'est pas forcément la bonne personne, parce qu'on n'est pas encore assez affermi, assez, vous voyez, guéri. Faut pas attendre une perfection, etc. Mais j'ai peut-être d'autres choses à résoudre. Peut-être, est-ce que c'est pas une fuite aussi de m'occuper de moi-même? Je fuis de m'occuper de moi-même dans l'aide aux autres. Mais c'est d'abord, aime ton prochain comme toi-même. Ben, pour aimer le prochain, et il faut s'aimer soi-même. On passe notre vie, c'est ça? C'est compliqué, bien sûr. Alors, mais c'est bien, mais c'est très bien, je suis ravi de ça. Je suis ravi que vous réagissiez. Oui. Alors juste, quand on dit s'aimer soi-même, encore une fois, attendez, on partagera. Mais Il ne faut pas attendre d'avoir tout résolu pour aller aider l'autre. Le bon samaritain, il avait certainement des choses à résoudre aussi. Mais est-ce que, et c'est là qu'il y a un discernement, est-ce que je suis capable, est-ce que c'est à moi de porter. Il y a des personnes, par exemple, je vous donne dans l'accompagnement spirituel, etc., qui viennent me voir, je leur dis, je ne crois pas que je suis la bonne personne. Je ne crois pas que je suis la bonne personne parce que ce que vous demandez, votre spiritualité, je ne la comprends pas forcément, etc., etc. Je peux vous envoyer, je ne suis pas le seul prêtre, ni en France, ni sur la terre, ni au ciel, donc du coup, je vais vous envoyer vers d'autres confrères, voilà, d'autres accompagnateurs laïcs qui sont formés. C'est avoir de dire, c'est juste une humilité, c'est pas un égoïsme, c'est juste un discernement. Qu'est-ce que je peux porter? Oui, ok, aider l'autre, mais aider l'autre, du coup, ça veut dire que je suis très possessif, et l'autre, s'il me le rend pas, du coup, de sauveur, je deviens bourreau. Ah ben toi, vu le temps que j'ai consacré, c'est comme ça que tu me traites. Et souvent, des personnes qui ont été très blessées, qui vont à la rencontre des autres, comme les autres sont aussi blessés, leur renvoie de l'agressivité. Ah ben, j'ai voulu te faire du bien, et c'est comme ça que tu me traites. Voilà. Ouais. Ah oui, bah du coup, il se pose la question, est-ce que je suis la bonne personne? Parce que... Ah oui, ah ben, vous n'êtes pas... Ah ben, si, non, je ne suis pas d'accord. Non, il y a d'autres personnes. Vous n'êtes pas la seule à vouloir faire le bien. Non, mais oui. Ben non, vous n'êtes pas la seule personne à vouloir faire le bien. Non, parce que là, ça manque d'humilité, vous voyez. Là, c'est manque d'humilité de penser qu'on est les seuls capables, on est sauveur du genre humain. Ben non. Mais juste, vous rappelez l'exemple que j'ai donné hier avec la prison. Moi, je vais à la prison. En fait, il y a des types qui m'insultent en permanence. Est-ce que je vais retourner ou pas? Oui, mais ça veut dire que moi, j'ai résolu un certain nombre de choses, je ne suis pas leur sauveur. Et je suis capable d'accueillir l'insulte alors que je vais aider. Alors, ok, tu vas aider, est-ce que tu es capable d'accueillir l'insulte? Parce que si tu es blessé trop, bien sûr tu as beaucoup d'amour. Mais tu attends beaucoup d'amour de l'autre. Or, l'autre, il est blessé. Donc, forcément, il envoie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est blessure contre blessure. Voilà, donc. Non, tu ne pas. Mais non. Oui. Mais ma question est, est-ce qu'il n'y a pas des personnes relais qui peuvent m'aider avec mon enfant? Et c'est valable pour tout parent. Il y a des parents qui n'y arrivent plus avec leurs enfants. C'est trop compliqué. Est-ce que c'est les grands-parents? Est-ce que c'est une institution, une association qui va m'aider? Là, vous voyez, je pense à beaucoup de mamans solo comme ça qui sont en galère, etc., etc. C'est qu'elles sont trop seules. Et on voit parfois elles comme ce qu'on appelle les bébés secoués. Vous savez ce que c'est les bébés secoués? C'est que mais c'est horrible. Mais c'est pas des mauvaises mères. C'est juste qu'elles n'y arrivent plus. Seul à gérer le mari complètement qui dysfonctionne complètement, qui est parti, s'il n'est pas parti en live complètement, le machin, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est qu'elles sont restées trop seules. Et c'est là où est ma liberté à demander de l'aide. Mais est-ce que je n'ai pas de l'orgueil que je ne veux pas demander de l'aide parce que moi, je sais. Vous voyez, c'est ça là. Prenez bien conscience de ça. Et la grâce dans l'Église. C'est qu'on peut demander de l'aide, c'est qu'on peut s'être soutenu par des groupes, des fraternités, des personnes. Il y a des personnes formées, il y a des personnes qui sont bien. C'est un climat bienveillant. Bon, on sait les blessures de l'Église, on ne va pas le rappeler, mais ce n'est pas la majorité du genre. Il y a quand même. Ici, je vois un climat très bienveillant au festival. Donc, du coup, voilà, d'être attentif à ça, de dire, ok, comme mère, je m'occupe de mes enfants, on est d'accord, mais pas seul. Pas seul, parce qu'il y a des enfants qui souffrent trop, pour X raisons, et qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui voire se voir déscolariser, voire etc. etc. Donc
Non,
demander de l'aide, c'est pas abandonner.
De l'amour.
On demande de l'aide à quelqu'un, voire à des professionnels qui vont interagir avec l'enfant pour lui faire prendre conscience. Un autre adulte, écoute, tu sais, pourquoi tu fais ça, etc. Alors que la maman, elle va réagir tout de suite, paf, comme ça, en cri, etc. Ou bon, et ben du coup, je pense que ça, de se faire aider. Il y a des professionnels. C'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est une expression d'amour de se faire aider par des professionnels. C'est de l'humilité de demander de l'aide. C'est là où en fait, il faut bien prendre conscience la question de la, derrière la question de la blessure. Il y a la question de la toute-puissance, la question de l'orgueil. Dans mes blessures peuvent se mettre l'orgueil. Je veux pas, moi je sais. Ben non, ben, et du coup, mais l'autre, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre, il est nul, etc. C'est là le combat spirituel. C'est là le combat spirituel, de se faire aider. Se laisser aimer, c'est se laisser aider. Et donc... De prendre conscience que je ne m'en sortirai pas seul. Le Christ est le seul sauveur, ça nous sommes bien d'accord. Et du coup, je demande l'aide dans la prière, etc., etc. Mais j'ai besoin parfois d'une aide fraternelle, d'un groupe d'amis. Est-ce que chacun de nous, on a un premier cercle avec qui craquer, avec qui pleurer quand c'est difficile? Ou est-ce qu'en fait, on s'est construit tellement une barrière, une citadelle imprenable qui fait qu'on devient inabordable? Ou est-ce qu'au contraire, ces premiers cercles, c'est 2-3 amis, pas plus, hein. C'est des personnes proches sur qui je peux compter. Il y a des gens qui n'ont pas ce premier cercle et qui affrontent leur souffrance seule. Et je pense que, en tout cas, une des invitations que je vous lance, c'est vraiment... d'avoir cette attitude d'humilité, de dire que tous nous sommes blessés, mais nous ne sommes pas seuls. Et que de la blessure peut jaillir du bien. C'est capital. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est de dire que Jésus ressuscite avec ses blessures. Mets ta main, vous reconnaissez le passage, mets ta main dans les plaies de mes mains, dans les plaies de mon côté, mets tes doigts dans les trous des mains, etc. Voilà. Jésus ressuscite avec ses blessures. C'est-à-dire que, il y a une phrase dans le psaume qui annonce le Christ, à mon avis, c'est deux rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance. Deux rayons. C'est-à-dire que vous pouvez bien voir que nous sommes tous blessés, mais nous pouvons construire. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Les traces de... Oui, mais c'est intéressant, c'est qu'il aurait pu ressusciter nickel. Nickel, bodybuildé, les tablettes ici. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le cas. Il y a les traces des blessures. Mais ces blessures, elles sont devenues glorieuses. Mais elles sont toujours là. Elles sont devenues glorieuses. Oui.
Mais alors, lorsque la personne en face de soi...
Quand la personne ne veut pas se laisser aider, vous voulez dire, c'est un mur.
Elle se dit, mais un mot, elle refuse l'amour.
Elle refuse l'amour.
L'amour, bon. Alors, elle dit, non, tu as fait.
Si la personne refuse l'amour... Parfois, il faut du temps, parfois... Vous êtes face à une liberté, comme Dieu est face à une liberté, face à nous.
Disons un mot, comment rentrer dans sa faille, il y a un truc de faille, et que...
Je crois, à un moment donné, on n'est pas sauveur, je veux dire. Il y a des personnes qui sont tellement blessées que pour s'ouvrir... mais c'est important de dire, il faut leur faire prendre conscience, tu avais une ouverture possible. Prends conscience que librement tu l'as fermé. Oui, j'avais une liberté, j'allais à droite ou à gauche, mais je l'ai fermé. C'est-à-dire que il n'est pas de cœur humain assez dur qu'il n'ait pas à un moment donné un choix. Et peut-être par orgueil, j'ai pas voulu me faire aider. Ou peut-être même que je connais l'amour de Dieu, alors là c'est beaucoup plus grave, je connais l'amour de Dieu, mais je n'en veux pas. On va vers l'enfer. L'enfer étant Dieu, c'est l'amour de Dieu vécu comme une souffrance. Et donc du coup, je pense que je ne veux pas de cet amour de Dieu, mais je connais l'amour de Dieu. Je vois expérimenter l'amour de Dieu, mais je n'en veux pas. Et du coup, je dis, ah, là, attention, il y a warning, là, il faut appeler les warnings, parce que, faut dire, là, attention, parce que ton destin dans la vie éternelle, ensuite, il y aura des conséquences. Parce que nos actes retentissent dans l'éternité. Donc, moi, je crois que c'est sûr qu'il y a des personnes tellement blessées qu'il faut s'approcher pas à pas, et puis on se prend 2 baffes, 3 baffes, il faut revenir jusqu'à ce que la personne soit en sécurité avec vous. Oui.
On est un maillon dans le chemin.
Exactement. Mais il faut accepter de se prendre des baffes. Alors qu'on va aider l'autre. Ah, bien sûr. Oui, des personnes qui sont victimes, par exemple, de mauvais traitements, vont voir quelqu'un qui souffre, vont se mettre en sauveur de la personne. La personne, comme elle souffre, elle a de la blessure, elle a de la violence, lui donne une baffe, elle se met en bourreau. Ah ben toi, tu m'as fait ça, tu vas voir, tu vas payer. Et ensuite, on reboucle victime. Il faut sortir de ce triangle qu'on appelle qui a un nom, qui est le triangle de Cartman, c'est un psychologue qui a fait ça. Il faut sortir de ce triangle, qui sont 3 manières toxiques d'être en relation avec les autres. C'est toxique. Il faut sortir. Je suis ni qu'une victime, ni qu'un sauveur, ni que bourreau à vouloir me venger. Oui. De Cartman. Cartman. PMA2N, je pense, Cartman. Peut-être que certains connaissent. Ça vous dit quelque chose, non? Ça vous dit. C'est ça, le triangle et sa dramatique, etc. Ou le triangle infernal. Ça a plusieurs noms. Mais bon, c'est intéressant de savoir que. C'est intéressant de travailler là-dessus, de dire, tiens, oui, je peux passer de l'un à l'autre. Parce que, en fait, je n'ai toujours pas compris ma manière de fonctionner. Que, ok, j'ai d'abord à prendre soin de moi, et puis ensuite, peut-être, petitement, je pourrais aider. Mais à la mesure que l'autre demande de l'aide, pas imposer mon aide. Hein, comme je vous disais, le frère qui manque de discernement... Et veut tout de suite vous aider, alors que bon, oui, non, c'est bon, je peux demander de l'eau, surtout à table, il est très très bon. Ça part d'un bon cœur, mais c'est plus zélé qu'éclairé, c'est-à-dire il y a manque de discernement, quoi. Donc,
comment est-ce qu'on peut savoir?
La question, comment on peut savoir si on est assez guéri pour sauver les autres? Un, on n'a pas sauvé les autres. On est un maillon, comme vous disiez très bien, un maillon dans une chaîne. C'est-à-dire, on peut donner un coup de main. Et maintenant, assez guéri, il ne faut pas attendre d'être parfait. On ne sera jamais assez guéri si ce n'est dans la vie éternelle. Mais on sent qu'on peut faire un petit pas. On peut mettre une aide. On peut, avec humilité, avec... Je pense que c'est important, ça, ces questions-là, de dire qu'en fait... Premièrement, il peut y avoir une attitude perfectionniste, c'est-à-dire, il faut que je sois encore plus guéri, il faut que je sois. Du coup, je suis paresseux, égoïste, je ne fais rien pour les autres. Non, blessé, je peux en aller à la rencontre des autres, mais de dire, voilà, est-ce qu'au fond, je ne serai pas sauveur des autres. Il n'y a qu'un seul sauveur.
Quelle est la différence entre vouloir sauver quelqu'un?
Ah oui, d'accord, oui. Oui, la charité, c'est un. Vouloir sauver quelqu'un, c'est une attitude de toute puissance. Je mets la main sur... C'est une emprise. Quand ce n'est pas Jésus, Jésus est le seul à sauver. Si moi, je veux sauver quelqu'un, c'est-à-dire que je me positionne comme ça en surplomb. Toi, tu es là, et puis moi, je... Quelque part, donner de la charité, je trouve c'est différent. C'est, un, que l'autre se sente libre par rapport à ma charité, qu'il l'accepte ou pas. Et qu'ensuite ce soit modeste, que ce soit modeste, que ce soit une charité inventive, voilà que. Mais je n'ai pas. Le problème de la position de sauveur, c'est que je deviens le tout de l'autre. Et ça, non, non, non. vous n'avez ni à être le tout de l'autre, ni que l'autre soit votre tout. Ça, c'est impossible. Ça, c'est...
Parent
d'un enfant, votre enfant n'est pas votre tout. Ni vous n'êtes pas le tout de votre enfant.
Il y a bien des fois où vous êtes obligé de dire...
Oui, oui, vous pouvez dire, vous pouvez exercer l'autorité, mais quitte ton père et ta mère. Il faut que l'enfant n'a pas être le tout des parents. De même que le conjoint, j'accompagne beaucoup de couples, etc. Ah ben, tu es toute ma vie. Ben non. Ben, tu peux aider modestement, tu peux aider. Tu es parrain, donc tu as un statut, tu peux aider. Mais je pense que c'est important. Pas dans, toutes les questions qu'on voit dans l'Église, ça se résume à des questions d'emprise. Ça, c'est question d'emprise. C'est-à-dire des personnes, clercs, des prêtres ou des laïcs, etc., on met la main sur d'autres. Je dois. Oui, oui, il y a un problème, mais je ne suis pas sauveur. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que je ne vais pas renvoyer une tierce personne? Et si l'autre veut. Tu n'es pas le parent, donc tu n'as pas d'autorité légale. Tu es parrain. Tu peux juste signaler. Tu peux. Voilà. Modestement. Et si vraiment il y a des choses, tu vois, des coups et blessures, etc., déposer une main courante. Là, on passe dans le pénal. Ah non, non, mais. Non, mais je veux dire, il faut être clair. Donc, du coup, je pense, pas d'emprise. Même sous des bons aspects, même avec des bonnes manières de penser. Voilà, je vais t'indiquer ton chemin, je vais t'indiquer ta vocation. Ça crée des catastrophes. Il y a des fondateurs de congrégations, etc., qui ont fait ça, c'était des... Allez-y, monsieur, oui.
Ne pensez-vous pas, père, qu'il y a plusieurs chemins pour aller vers l'autre ?
Exactement. Il y a plusieurs chemins pour aller vers l'autre, il y a plusieurs personnes pour aller vers l'autre. Et je pense que ça, c'est très important de dire, je ne suis pas le tout.
On parlait du tout, là, par rapport au couple.
Pas le tout, c'est-à-dire qu'ils ne feront qu'une seule chair, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Ils n'ont pas à être le tout de l'autre. C'est-à-dire que celui qui veut, et il y a parfois de l'emprise dans le couple, en fait, c'est des personnes, ce qu'on appelle pervers narcissiques, qui se construisent en vous dévorant. Il faut apprendre à aimer sans dévorer. Il faut apprendre à aimer en laissant l'autre libre d'aller son chemin. Je n'ai pas à savoir H24 ce que tu fais. Je ne vais pas regarder dans ton portable, te fliquer le portable. Ah non? Ah non? Non, mais il faut ce qu'on appelle la différenciation. C'est-à-dire que l'amour n'est pas la fusion. Être en fusion, c'est une confusion. Donc la différenciation, il faut déscotcher le couple et dire « moi j'existe, toi tu existes et il y a nous ». Mais nous ne sommes pas un boogie-boulga de fusion de deux. Et le challenge du couple, c'est dire « il y a je, il y a tu, il y a nous ». Et de garder le je présent, de garder le tu présent, et avec le et sinon ça va exploser. Je vais peut-être pas donner des... C'est des ateliers, on ne va peut-être pas travailler dans l'atelier sur une seule chair, mais c'est autre chose. Alors, oui, c'est vrai que c'était notre sujet, oui. Comment trouver notre chemin de réconciliation? Je pense que, premièrement, le chemin de réconciliation, c'est d'abord prendre conscience. C'est prendre conscience et se réconcilier avec soi. Se réconcilier avec soi-même, c'est-à-dire que soi-même, on a pu avoir des attitudes déviantes. On a pu, sous des bons prétextes, vouloir aider et on s'est mis en toute puissance par rapport à l'autre. Ou j'ai laissé mettre des gens en toute puissance par rapport à moi. Je me suis laissé mettre sous emprise. Hein, et donc ça c'est pas bon. Donc je pense que d'abord la réconciliation avec soi-même, qui est la plus difficile, parce que parfois il y a des choses que voilà, on aimerait rembobiner la vie et faire reset. Vous savez, il y a des boutons, on appuie sur reset. Il n'y a pas de bouton en nous reset. Mais en revanche, qu'il y a une possibilité, c'est de la confession et le pardon de Jésus vient là vraiment redonner une chance. Il faut juste y croire. Il faut croire à ce pardon. et croire que je suis une belle personne, même si je suis blessé, ou même si j'ai pu blesser les autres. Et puis, dans la réconciliation avec les autres, je trouve que c'est important d'être attentif à ça, de dire, tiens, d'être modeste, que nos gestes de réconciliation, que nos gestes de réconciliation soient, d'une certaine manière, des gestes avant-coureurs, des gestes un peu assez modestes. C'est-à-dire que il faut renoncer à une communion plénière entre tous les êtres humains. Il faut renoncer à ça. Il faut renoncer à ce que l'amour soit partout et toujours ici-bas. Il faut renoncer à ça. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens blessés, il y aura des gens qui blesseront, il y aura des guerres, il y aura des... renoncer au paradis terrestre. Si vous croyez au paradis terrestre, c'est que vous n'êtes plus dans la foi catholique. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais on va peut-être limiter parce que... Bon, bah, toujours est-il, c'est important de, dans la réconciliation... S'il y a un bien, il y a un mal, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, là, c'est tout à fait hors sujet. Mais je pense que il y a un bien et un mal, c'est pas la question, mais faut renoncer à ce qui est une perfection dans l'amour, même dans le couple. Parfois, on peut s'en sortir seul à deux. On peut se sentir seul en communauté. Et de dire que seul Dieu nous comblera. L'autre n'a pas à me combler. L'autre n'a pas à me combler. Et ça, c'est important. Oui, Mélissa, oui. Alors, ça c'est soi-même. Je n'ai pas forcément cru dans le pardon de Dieu. Et je me maltraite moi-même parce que j'ai fait quelque chose de mal. Et donc, je pense que c'est important d'être attentif, de dire qu'il y a un travail là-dessus de se revoir comme une belle personne, comme une personne capable de faire du bien. Et ça, c'est d'autres en face de toi qui diront, toi, tu es une belle personne. Arrête, ce que tu fais là, c'est contre toi.
On m'a dit, c'est un péché sans
miséricorde. Oui, mais là c'est... Oui, ça, c'est vrai que c'est un péché si on ne croit pas à la miséricorde, mais surtout ce qui est... Oui, mais parfois, si vous voulez, il y a des blessures tellement profondes qu'on se dit, il faut encore que je me fasse du mal, il faut que je paye. Du coup, je vais me taillader, je vais me, etc., maltraiter personnellement, parce que je me dis, ce sera la seule manière de rédemption. Et non. Et non. Non, c'est pas la seule manière. C'est pas notre rédemption, elle n'est pas en se maltraitant.
Vous croyez pas que les scarifications, c'est...
On fait tout pour le bien, sous aspect du bien, sous un prétendu bien. L'homme qui va se pendre cherche son bonheur. Et oui, et bien sûr, c'est que ce que vous dites, c'est tout à fait juste. On pense que ça va nous faire du bien. Celui qui prend le chemin du bar et du bistrot, etc., et ça va lui faire du bien. Tout ce qu'on fait, tous les péchés qu'on fait, c'est des désirs de bonheur qui n'ont pas atteint leur objectif. Oui, des compensations, des désirs de bonheur qui n'ont pas atteint leur objectif. C'est des flèches, mais qui ne sont pas atteints la cible, sont à côté. Donc oui, tout à fait juste ce que vous dites. Ça, je peux pas que... Mais je pense que c'est important de dire... Attends, deux minutes, faut que je développe, parce que là, on ne peut pas que poser des questions. Et ensuite, je resterai... Non, ensuite, il y aura la messe. Mais du coup, je pense que c'est important de dire qu'il y a... Premièrement, la réconciliation prend du temps. Et que... ça peut vraiment... La réconciliation demande une parole. Rappelez-vous Caïn et Abel. Caïn emmène Abel au champ et lui dit « Point. » La Bible ne dit rien. Et ensuite, il n'y a pas eu de parole. Quand il n'y a pas de parole, il y a la violence. Et ça, je pense que le fait... On voit bien, il y a des groupes de parole. Vous savez, ça existe, des groupes de parole, etc., pour... parfois en prison, etc. Des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de parler, de dire les choses, etc. Du coup, il n'y a que la violence qui est l'expression de leur mal-être. Et mais de dire aussi, c'est important de dire que voilà, c'est la demande de Jésus de pardonner. Hein, pardonne-nous, sa cinquième demande du pater. Mais le christianisme plaide pour une certaine modestie dans le pardon. Moi, je dis, il y a deux critères qui me font dire que j'ai pardonné à quelqu'un. Un, je pense à l'autre paisiblement. Je ne le pense pas alors qu'il est dans un hachoir, alors qu'on est en train de lui faire du mal. Alors, quand j'imagine ça, là, je me sens... Alors, si c'est ça, c'est t'as pas encore pardonné. Je pense à l'autre paisiblement. Première étape, modeste. Modestie. Je pense à l'autre paisiblement. Il n'y a pas tout un océan de violence qui se projette sur l'autre. Deuxièmement, et là, ça, c'est l'étape de dessus, je m'attriste du bien, du mal qu'il peut subir. Si, par exemple, j'apprends qu'il a un cancer, je ne dis pas, ah ben, il y a une justice en ce bas monde, au moins. Parce que si je dis ça, c'est qu'en fait, je n'ai pas pardonné. Hein, et je m'attriste de la souffrance qu'il affecte, et je me réjouis, ah ben il a gagné au loto, ben je suis content pour lui.
Attendez, comment vous faites?
Ah ben... Allez, il y a une question là, ici. Oui, allez-y.
Je voulais connaître la limite.
Ah oui, quelle est la limite entre une émotion négative et la pensée et... L'émotion, elle est neutre. C'est est-ce que cette émotion négative vous fait entretenir des pensées mauvaises répétées sur une personne et voire vous fait commettre des actes qui vont porter atteinte à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est est-ce que l'émotion, elle est neutre? J'ai de la joie, j'ai de la tristesse, etc. J'ai de la colère, c'est une émotion. Oui. Oui, quand les pensées, alors, est-ce que on dit je confesse en parole, en pensée, par action, par émotion, hein, vous savez, dans le je confesse à Dieu. Voilà, donc je pense que c'est les pensées, c'est vrai que c'est bien de les contrôler, parce que avant les actes, il y a les pensées. Les pensées préparent. Bah, c'est parfois trouver un peu une technique, une stratégie pour changer de. Je sais pas, il n'y a pas de. Voilà, mais en tout cas, c'est. Quand c'est trop entretenu, quand je sais quelque chose qui est récurrent, etc., il faut demander au Seigneur, ben, libère-moi de ces pensées-là. Alors, pardon n'est pas réconciliation. Le pardon, c'est dans un sens. La réconciliation, c'est moi, je me reconnais victime, toi, tu te reconnais agresseur, tu me demandes pardon, je te pardonne. Ça, c'est réconciliation, c'est le meilleur. C'est rare. Beaucoup de gens, beaucoup de fois, c'est la personne a vu, mais l'agresseur n'est même pas capable de reconnaître qu'il est agresseur. Il n'est pas capable de reconnaître qu'il est agresseur, qu'il a fait du mal. Et c'est pour ça que c'est très important, quand on a fait du mal, déjà de se pardonner à soi-même et de se positionner en disant « je demande pardon ». Vous vous rappelez la lettre que ce prisonnier a écrite, etc., alors qu'il avait tué pour 20 euros pour acheter de la drogue là, en Amérique latine. Bon, mais du coup, il a écrit. Mais recevoir une parole de son agresseur, c'est pas facile. Vous voyez? Donc je pense que c'est vraiment tout un chemin, je trouve, et un beau chemin. Mais nous sommes les seuls, les disciples de Jésus, à prêcher un pardon et vraiment à un pardon entre les à mettre ça comme un focus là-dessus, vraiment. Genre, on a un sacrement du pardon, d'autres ne l'ont pas. On est les seuls à l'avoir avec les orthodoxes. Hein, mais je trouve que c'est très beau de découvrir qu'on est des personnes capables de, dans notre religion, il y a une vraie incitation au pardon. Oui, reconnaître sa fragilité, mais accueillir aussi la fragilité de l'autre, qu'est-ce qui fait, mais aussi une modestie dans le pardon. Je pense que qu'est-ce que je suis capable de faire comme pas, mais aussi parfois se reconnaître victime. Par quelqu'un, vous lui avez dit, ça arrive dans la vie de couple, ça arrive en communauté religieuse, etc. Vous avez eu un mot comme ça, arrêtez, pas tout de suite, un peu exaspéré. Le premier mouvement vous aura échappé, mais que le deuxième mouvement, qui est d'aller voir la personne, excuse-moi, j'ai été impatient, je t'ai mal parlé. On a toujours une liberté. Il y a des blessures, si vous voulez, qui prennent une vie aussi, je pense. Donc, est-ce que vous demandez dans votre prière, par exemple? Oui. Ben vous demandez, vous voyez, Regretter de ne pas pardonner, c'est déjà qu'on est dans le pardon. Est-ce que vous regrettez de ne pas, pas avoir pardonné à ce
moment-là?
Oui, mais est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu... déjà, si vous regrettez, je dis c'est super. J'y arrive pas, mais je suis malheureux de ne pas y arriver. Il y a un blocage, bon. Ben, tu dis à Jésus, il y a un blocage. Oui, et c'est Dieu qui pardonne, mais c'est à nous de, aussi, de, dans notre cœur. Oui, 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 oui.
Comment arriver à la réconciliation ?
Alors, comment, et on terminera avec ça parce qu'il y a la messe, comment arriver à la réconciliation, c'est, je pense que c'est vraiment un don, une grâce. Moi, j'ai parlé hier de la réconciliation franco-allemande, qui pour moi est une grâce, parce que c'est des pays chrétiens, etc., qui n'a pas eu lieu en Asie, par exemple, alors qu'il y avait eu des guerres, etc. Ça demande que chacun se reconnaisse victime. Je vous donne un exemple pour terminer, parce qu'il y a la messe, mais peut-être vous avez entendu parler d'une femme, s'appelle Maïti Gertamer. Maïti Gertamer, pianiste, torture résistante, prise par les Allemands, par les nazis durant la guerre, torturée sur les nerfs, alors qu'elle était pianiste professionnelle, elle n'a plus pu jouer. Son agresseur est un médecin, qui, ensuite un Autrichien, très bon père de famille, qui a exercé, et qui ensuite, à la fin de sa vie, dit « il faut que je retrouve cette femme ». Et elle avait prié pour lui, dit « comment je vais faire pour retrouver ?» Il y a tout un livre écrit là-dessus. Mais lui, un homme, un médecin, je veux dire, érudit, c'est quelqu'un... Mère de sa c'était quelqu'un qui... Et il a dit, j'ai mis des années à penser que le nazisme n'était pas la solution. Et on parle de quelqu'un d'érudit, bon père, bon grand-père, soucieux du bien commun et bon médecin. Attendez. Si vous voulez, parfois l'intelligence est tellement bloquée j'arrive pas. Je suis sûr que mon idéologie est la bonne. Je suis tellement persuadé, même si ça fait souffrir des gens. Et donc lui, il a dit, j'ai mis des années à penser que le nazisme n'était pas la solution.
La réconciliation, vous venez de suivre un enseignement du père Pierre-Marie Castaignos, enregistré lors du Festival Marial de juillet 2022 à Notre-Dame-du-Lot.